BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. Deux invités aujourd'hui dans l'heure H. François Asselin, qui est président de la CPME, qui est déjà en studio avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On parle évidemment difficulté de recrutement, l'impact que ça peut avoir, le solde négatif de création d'usines depuis le début de l'année. Ça, c'est un point important. Et puis, bien sûr, on parlera de retraite. Ensuite, c'est Thierry Mallet, le patron de Transdev. Lui, c'est plutôt les transports, transports collectifs, l'écologie, l'environnement, qui sera avec nous à partir de 12h30. Pour l'instant, place à l'info avec Thomas Asportas. Bonjour Thomas.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et c'est bien sûr toujours le pétrole qui fait la une de l'actualité. Le pétrole qui reste sur ses niveaux de la veille après avoir bondi hier, vous l'avez vu, de près de 15%. Le Brent et le WTI donc sont stables aujourd'hui depuis l'ouverture des marchés. Les marchés qui restent donc dans l'expectative après les attaques contre les installations d'Aramco. Donald Trump veut savoir avec certitude qui est responsable avant de déclencher une éventuelle riposte. L'Iran répond ce matin qu'il n'y aura aucune discussion avec les États-Unis. Le ministre saoudien de l'énergie, quant à lui, s'exprimera à 19h heure française. Et puis du côté des prix à la pompe, le gouvernement appelle les pétroliers à la modération sur les prix. Les pétroliers qui déclaraient hier que les prix allaient augmenter rapidement de 4 à 5 centimes le litre. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, ajoute que la France a des stocks de pétrole de très haut niveau et qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement. En Allemagne, bonne nouvelle du côté allemand. Pour une fois, le moral des investisseurs a nettement rebondi en septembre. Il est deux fois meilleur qu'au mois d'août. C'est bien au-dessus de ce qu'attendaient les analystes. Les perspectives restent négatives. Tempère malgré tout le baromètre Zoo. L'économie allemande reste sous la menace d'une entrée en récession au troisième trimestre. Et puis les discussions commerciales vont reprendre entre la Chine et les États-Unis puisque les Américains accueillent demain une délégation chinoise pour préparer le nouveau round de négociations qui se tiendra début octobre à Washington. Les deux camps sont depuis quelques jours dans une stratégie détente avec le report ou l'annulation même de certaines taxes sur les importations. Et puis alors du côté du Brexit, on va bientôt savoir si Boris Johnson avait oui ou non le droit de suspendre le Parlement britannique jusqu'à la mi-octobre. La Cour suprême se penche à partir d'aujourd'hui sur plusieurs recours contre cette suspension des travaux parlementaires. La justice écossaise l'avait déclaré illégal la semaine dernière. Le verdict de la Cour suprême britannique sera rendu vendredi au plus tôt. Retour en France et dans le dossier Aigle Azur, l'État affirme avoir une discussion exigeante avec Air France pour que la compagnie reprenne le maximum d'emplois. Après les auditions d'hier, la justice a accordé un délai supplémentaire jusqu'à mercredi soir pour recevoir de nouvelles offres. Dans le reste de l'actualité, c'est une grosse séquence tech qui démarre avec Emmanuel Macron qui reçoit ce soir à l'Élysée tout le gratin de la French Tech pour leur présenter ses mesures. L'objectif, c'est faciliter leur financement et les aider à grandir. L'Élysée veut plus de licornes et elle dévoilera demain pour le France Digital Day la composition du fameux Next 40, le CAC 40 des startups françaises les plus prometteuses. Et puisqu'on parle de tech et de CAC 40, une page va bientôt se tourner chez Capgemini avec le départ de la direction de Paul Hermelin. Ce sera la prochaine assemblée générale du groupe en mai 2020. Paul Hermelin restera président du conseil d'administration, mais il passe les manettes opérationnelles à un successeur maison, c'est Aimant Ezzat, directeur général délégué de Capgemini et présent dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. Très grosse journée pour Apple qui attaque la Commission européenne en justice. Le tribunal de l'Union européenne se penche aujourd'hui et demain sur la décision historique de Bruxelles. Vous vous en souvenez, 3 ans après que Margaret Vestager a condamné Apple à rembourser 13 milliards d'arriérés d'impôts à l'Irlande. Apple déclare ce matin à Luxembourg donc que cette décision défie la réalité et le bon sens. Et puis un dernier mot de tech pour finir avec le report qui se précise de plus en plus pour l'introduction en bourse de WeWork. Des sources proches affirment que ce ne sera pas au mieux avant le mois d'octobre, alors que ça devait être ces jours-ci. WeWork, c'est cette start-up mondiale des bureaux partagés, mais sa valeur a chuté de plus de moitié la semaine dernière. L'entreprise n'arrive toujours pas à rassurer sur son modèle économique et sur sa gouvernance. BFM Business, il est midi 3. Je vous redonne le CAC 40 à la mi-journée. Le CAC est bien et stable. Le CAC est à 5600 points tout rond. L'euro-dollar, quant à lui, est légèrement dans le vert. On gagne 0,15%. 1 euro s'échange pour 1,10$.
Merci Thomas. Et dans un instant, on va parler de gouvernance aussi, mais avec gouvernance patronale et syndicale, avec notre invité François Asselin, le président de la CPME.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est François Asselin, président de la CPME. François Asselin, beaucoup de questions à voir avec vous. D'abord, la rentrée, un peu comment ça se passe, un peu quel est le climat dans les PME françaises. Il y a évidemment toute la réforme des retraites. Vous avez dit, attention, on prend trop de temps, il y a trop de négociations. Où est-ce que ça va nous conduire? Et puis, inquiet sur la gouvernance patronale et syndicale. Et puis, il y a évidemment aussi la question du budget. Moi, j'ai une première question à propos de conjoncture. On a vu, alors pour l'instant, ça se ressent pas trop, mais il y a des craintes, en tous les cas, avec ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, de flamber des prix du pétrole. Il faut rester mesuré parce que pour l'instant, on ne voit pas trop l'impact. Mais pour vous, les PME, ça peut être vraiment un facteur déstabilisant.
Oui, regardez dans vos sujets d'actualité. 3 sujets. Le pétrole,
sujet très actuel du week-end. Le Brexit, menace potentielle pour aussi nos échanges avec l'Angleterre. Et nous sommes le premier, c'est notre première destination exportatrice pour la France. Donc c'est important en matière économique. Et puis, vous voyez que là aussi, les tensions entre la Chine et les États-Unis peuvent aussi, dans une économie mondialisée, avoir des répercussions. Le pétrole, nous sommes, comme les Français, nous entrepreneurs, très dépendants de cette matière première. Et bien souvent, dans les coûts des matières premières, eh bien, les coûts augmentent à la vitesse de l'ascenseur, mais baissent à la vitesse de l'escalier. Ce qui fait que, bien évidemment, lorsque vous avez des devis qui sont signés, des marchés engagés, bien souvent, vous ne pouvez pas répercuter l'augmentation de vos coûts, tout simplement sur vos prix de vente. Donc, c'est la marge d'un seul coup qui est impactée. Alors maintenant, il ne faut pas paniquer. On voit que globalement, il y a eu un choc le lundi sur l'augmentation du coût du pétrole. Si cela arrive à se stabiliser comme on a l'air de voir en ce moment, il y a d'autres possibilités de réserves de pétrole dans d'autres pays, dans d'autres destinations, eh bien, ça sera un mini-choc. Néanmoins, si cela devait perdurer et s'amplifier, on voit la tension potentiel qu'il peut y avoir entre l'Arabie Saoudite, États-Unis, Iran, voilà, ça par contre, ça peut être effectivement sur moyen long terme un petit peu ennuyeux pour l'économie mondiale et française en particulier.
Donc vous estimez qu'on est un peu dans une, vous utilisez tout à l'heure pendant qu'on discutait, une queue de comète peut-être conjoncturelle, c'est ce qui vous fait un peu peur?
C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit un petit peu sur la queue de comète de la croissance, parce qu'on voit bien que ça tient en France, mais ça s'effrite gentiment. J'espère que ça ne sera pas sûrement. Voilà. Donc, pour l'instant, au niveau macroéconomique, au niveau du pays, c'est plutôt pas mal, plutôt positif. Regardons les créations d'emplois depuis ces deux dernières années. Elles sont extrêmement positives en solde d'emplois créés sur le secteur marchand, ce qui nous intéresse. Pour autant, on a toujours cette problématique dans les entreprises de trouver les compétences dont on a besoin. Et donc ça, c'est un vrai frein aujourd'hui au développement des entreprises et particulièrement sensible dans les PME.
Il y a plusieurs facteurs d'inquiétude, vous l'avez dit, il y a ce facteur-là. Il y a un autre point important sur lequel vous êtes exprimé, mais j'en parlais ce matin avec Frédéric Mazzella, le président de BlaBlaCar et président de France Digital, puisque c'est le France Digital Day là, demain, avec ce rendez-vous à l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron. Il disait, nous, on a un vrai problème de recrutement des talents, au point qu'il y a, il y a une remise des prix, il y a des équipes qui ont réussi à se lever. Vous, pour les PME, vous dites aussi, attention, on n'arrive pas, et c'est un vrai frein à la compétitivité française.
Mais bien entendu, c'est-à-dire que quand vous avez besoin d'augmenter votre volume d'affaires tout simplement parce que le marché est présent, et bien souvent vous êtes restreint parce que vous n'arrivez pas à trouver les compétences, les spécialités dont vous avez besoin dans votre entreprise pour répondre à la demande des clients. Ces spécialités, ces compétences ne sont pas disponibles sur le marché de l'emploi. Donc, comment peut-on résoudre ce problème? D'abord, on a toujours beaucoup de monde qui sont en demande d'emploi. Il faut les former. La réforme sur la formation professionnelle continue et l'apprentissage est une réforme essentielle. Le problème, c'est que ça ne produira pas ses fruits en quelques semaines ni en quelques mois. Il faudra du temps pour tout cela. Concernant les compétences qui nous
manquent... Mais vous avez besoin de quelles compétences? Parce que lui, c'était plutôt au niveau justement d'ingénieur...
Bien sûr. Eh bien, vous allez voir. Oui. On a quelque chose qui était très révélateur. Il y a eu les World Skills, c'est les Jeux Olympiques des métiers qui se sont passés à Kazan, au mois d'août. La France est arrivée en 9e position. C'est pas très glorieux. C'est-à-dire qu'on a, sur nos compétences, un déficit de candidats et de candidatures, et donc d'orientation. Ça veut dire quoi? Quand vous regardez, par exemple, dans des métiers comme l'aéronautique, aucun candidat proposé. Dans les métiers du numérique, vous venez de l'évoquer, aucune médaille, aucune récompense. Autant vous dire que nous avons un déficit de compétences extrêmement important dans notre pays, il va falloir se secouer. Pourquoi? Parce que si nous ne trouvons pas les compétences dans des métiers...
Donc la formation, c'est tout ce que fait le gouvernement sur la formation? C'est quoi? C'est à faire venir des gens de l'étranger? C'est ouvrir?
C'est pas compliqué. Les compétences ne sont pas présentes en France et qu'elles viennent de l'étranger, vous savez, nous, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui ont envie de travailler. Après, à nous de faire en sorte qu'ils deviennent compétents. Donc, il faut bien évidemment jouer sur le rôle de la formation, y compris des demandeurs d'emploi et de nos salariés, pour
Mais par exemple, chez Asselin, dans votre entreprise familiale.
C'est pas compliqué.
Oui.
Si vous trouvez un menuisier, un charpentier compétent qui est son brevet professionnel disponible sur le marché du travail, vous n'en trouvez pas. Donc si demain je décroche un gros marché, que ce soit en France ou à l'export, et que j'ai besoin d'augmenter mes effectifs de production, je ne le peux pas directement. Donc c'est
aujourd'hui, vous ne pouvez pas.
Je ne peux pas. Donc qu'est-ce que l'on fait depuis des années? On a une politique de recrutement d'apprentissage qui est extrêmement dynamique, parce qu'il faut veiller à faire en sorte de remplacer les générations qui partent en retraite. Mais pour autant, si vous avez un problème de développement pour répondre à la demande de vos clients, eh bien, vous ne pouvez pas le faire, tout simplement parce que vous n'arrivez pas à trouver immédiatement les compétences. Ce qui veut dire que, même si ce n'est pas une réponse satisfaisante, c'est encore mieux que de dire ce que j'entendais il y a quelques années, « j'ai pas envie d'embaucher ». Aujourd'hui, les employeurs, les entrepreneurs ont envie d'embaucher.
Oui, alors maintenant, lorsque vous regardez les chiffres, c'est une petite polémique sur laquelle je vais vous demander votre avis, mais l'apprentissage est au plus haut. Muriel Pénicaud se félicitait, il y a encore quelques jours, du fait que jamais le niveau d'apprentissage n'avait été aussi élevé.
Oui, alors, moi, je resterai un petit peu humble par rapport à cela, parce que d'abord, on était parti de très bas, il ne faut pas l'oublier, l'apprentissage s'est frité d'année en année, et là, on commence à avoir des chiffres positifs, tant mieux. On va encore avoir une année 2019-2020 pas exceptionnelle dans la mesure où la réforme de l'apprentissage est en train de s'implémenter. Il va falloir un petit peu de temps pour que tout cela se passe correctement. Pour autant, on aura réussi l'apprentissage lorsque un jeune qui arrivera en fin de troisième ou en fin de terminale, s'il a du potentiel et qu'il choisit la voie professionnelle, eh bien que son entourage ne lui dise pas « Écoute, tu choisis une voie de garage ». C'est ça qu'il faut gagner. Il faut pouvoir, demain, faire en sorte que celui qui choisit pour se former la voie professionnelle puisse espérer atteindre le plus haut niveau de qualification et diplôme. Et ça, alors, on n'a pas encore gagné.
François Asselin, deux petites questions là-dessus, un petit peu de politique, politicienne peut-être, mais je recevais Hervé Morin, qui est le président des régions de France, et qui disait Muriel Pénicaud se félicite du niveau d'apprentissage, mais il ne faut pas qu'elle oublie que pour l'instant, ce sont encore les régions qui sont responsables du niveau d'apprentissage, et nous on joue le jeu même si la réforme fait qu'on aura un pouvoir moindre d'ici quelques temps. Comment est-ce que vous voyez les choses? Et la deuxième question, vous avez vu ce bisbille patronal, mais qui vous concerne vous aussi, entre la Fédération des bâtiments des travaux publics et du bâtiment, pardon, et puis la CAPEB, donc les petits artisans, autour de la suppression de certains centres d'apprentissage. On voit qu'il y a des bisbilles partout, il y a des questions d'ego, de représentativité.
Alors on va essayer de mettre ça en perspective.
Ouais.
Hervé Morin a raison.
Il a raison.
De dire que les régions sont avant tout celles qui ont jusqu'à maintenant travaillé autour de l'apprentissage.
Donc ça marchait.
Ça marchait pas bien partout. Mmh. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ouais. Ça marchait pas bien partout. Vous avez eu des régions extrêmement vertueuses en matière d'apprentissage, d'autres qui l'étaient un petit peu moins, avec des chiffres moins bons. Donc, il faut bien noter que bien souvent, les apprentis que nous recrutons dans nos entreprises, qui sont en territoire, ce sont souvent des gens qui habitent dans le bassin de vie de l'entreprise, autour de 30 km de l'entreprise. Donc, l'enjeu territorial autour de l'apprentissage est essentiel, il est énorme, et il a raison. Les régions ont un poids incontournable et ont une mission incontournable autour de la réussite de l'apprentissage. Mmh. Et ce qu'on voit au niveau de l'augmentation positive des chiffres de l'apprentissage, sachant que la réforme actuelle n'est pas complètement déroulée, c'est peut-être aussi le résultat des régions qui se sont secouées ces dernières années. Donc, savoir d'où vient, on va dire, ces chiffres positifs, est-ce que c'est la réforme ou la région, finalement,
peu importe. Mais c'est pas encore la réforme.
Je ne pense pas. À la limite, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que l'apprentissage retrouve les couleurs.
Maintenant, ça, c'est plus important. C'est bisbille au niveau patronal.
Oui, mais écoutez.
Alors, question que je posais donc à Jacques Chenu, le président de la Fédération du bâtiment, qui me disait oui, vous savez, il y a des élections de représentativité où vous êtes concerné, bien sûr, François Asselin. Vivement que ça se termine, parce que là, c'est la zizanie patronale à tous les étages.
Alors, c'est un petit peu plus simple au niveau interprofessionnel en ce qui nous concerne, MEDEF, UDP, CPME. Mais c'est vrai, à partir du moment, voyez-vous, où il faut se compter et il faut le faire tous les 4 ans, eh bien, ça met en tension soit les organisations professionnelles qui sont en compétition dans un même secteur d'activité, soit les organisations interprofessionnelles comme la CPME à leur niveau. Écoutez, moi je pense qu'il faut savoir raison garder. Au bout du bout, le plus important, c'est de savoir ce qu'on fait pour nos adhérents, pour les entreprises et pour les chefs d'entreprise. C'est ça l'essentiel.
Est-ce que, une question qu'on me soulève à l'instant, est-ce que vous êtes prêt un peu, c'était Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, qui l'a dit même à mon micro, en disant, moi je suis prêt à me... Enfin, mon objectif même est de supprimer toute subvention venant justement de, dans le cadre du paritarisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Est-ce que la CPME... Parce que souvent on vous reproche un peu la question de financement à la CPME.
vous savez, on peut la reprocher à tout le monde. Ce que dit Geoffroy de Roubaixieux, sur le fond, il a entièrement raison. C'est-à-dire que tout ce qui est subvention, il y a un outil qui s'appelle l'AGFPN. C'est une sorte de holding, l'association par laquelle doivent passer tous les fonds du paritarisme pour qu'un euro dépensé soit un euro justifié. C'est très bien. Et s'il reste des subventions, eh bien, il faut que ces subventions, tout simplement, soient redirigées vers l'AGFPN pour qu'un euro dépensé soit un euro justifié. Et si on n'a pas de quoi le justifier, ben on ne le dépense pas. Voilà. Donc sur le fond, il a entièrement raison. Et là, je ne vois pas comment, entre guillemets, on ne se mettra pas d'accord là-dessus.
Il y a aucun souci. Vous pouvez vous priver de ce financement à la CPME? Non.
Alors, ça dépend de quoi on parle. Les subventions, on peut tout à fait s'en priver à partir du moment où ça repasse par la GFPN. Maintenant, lorsque vous avez une mission d'intérêt général, qu'il faut assurer des relations non marchandes, des actions non marchandes, la promotion de l'apprentissage, la promotion de la formation professionnelle continue, la promotion de la GPEC, par exemple, pour les compétences dans les entreprises, écoutez, il faut bien des moyens pour assurer votre mission d'intérêt général. C'est pour ça qu'il y a le 0016 qui remonte, qui est collecté par toutes les entreprises qui ont des salariés sur la masse salariale, qui alimente aussi bien les syndicats de salariés comme les syndicats patronaux. Et là-dessus, le MEDEF en touche trois fois plus que la CPME. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que cela soit transparent et qu'il n'y ait pas de financement qui passe entre les mailles du filet.
Ok, gros enjeu, la représentativité, la question annexe, on aura le temps d'en reparler, bien sûr, mais...
Vous savez, tout est organisé depuis le départ pour que les grands équilibres ne changent pas, c'est-à-dire que le MEDEF restera toujours premier, puisque la représentativité est calculée sur le poids du nombre de salariés, les grandes entreprises sont au MEDEF, elles ne sont pas chez nous, donc de toute façon, le MEDEF gardera sa place de premier, la CPME gardera sa place de deuxième organisation professionnelle syndicale, avec certainement le plus grand nombre d'entreprises adhérentes, puisque nous sommes dans tous les territoires, et puis l'UDP gardera sa place qui est la sienne. Voilà, donc il ne faut pas s'attendre entre guillemets à de grands mouvements.
Grand mouvement, en tout cas, du côté du syndicat patronal. Alors, j'ai toujours lu, je vais encore le citer, il était notre invité à BFM Politique ce dimanche dernier. Geoffroy Roubaixieux a dit « Je ne vois pas de signe tangible, économique, budgétaire, de volonté de réforme ». Ça, c'était notamment dans le cadre, évidemment, de la préparation du budget, mais aussi sur la question des retraites. Est-ce que vous êtes aussi sévère que lui, notamment sur le fait qu'il n'y ait aucune économie publique qui ne soit réalisée dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2020?
Vous savez, les faits sont là, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de regarder comment ce budget 2020 est préparé. On est un petit peu dans la même orientation que 2019-2018, c'est-à-dire que les promesses de réduire les dépenses de la sphère publique, hein, État et collectivité, ne seront visiblement pas tenu, ce qui veut dire que bien évidemment, on va compenser cela par de la dépense. Et finalement, vous savez, nos dépenses d'aujourd'hui seront nos impôts de demain. Donc, lorsque on a toujours la palme du pays où on le prélève le plus les Français et les entreprises...
Là, il y a 20 milliards, il y a quand même presque 21 milliards de prélèvements obligatoires en 3 ans. Donc, c'est quand même...
Voilà.
En moins. Donc, c'est quand même considérable.
Vous allez avoir...
Vous faites...
La fiscalité, c'est ce qui sort en total de la poche soit du Français, soit de l'entreprise. Parce que la fiscalité, elle n'est pas que nationale, c'est pas que l'impôt sur les sociétés, il va baisser. Mais quand vous regardez toute la fiscalité, y compris les impôts de production et la fiscalité locale, territoriale, CFE, CVAE, tout ce que vous payez...
Ça, c'est les impôts de production,
Oui, mais vous payez de la taxe foncière. Eh bien, tout cela augmente. Ce qui fait qu'au total, on a toujours la palme des acteurs économiques les plus ponctionnés d'Europe.
La question, là, c'est de savoir, est-ce que vous redoutez qu'il y ait un peu un changement de politique, la politique d'offre par rapport à la politique de la demande, le débat.
Je pense,
on va pas
très honnêtement,
ici, mais est-ce que vous vous dites, tiens, les entreprises, on passe maintenant plus au second plan, ou au contraire?
Écoutez, je vais vous dire ce que je redoute. En fait, je sens que Bruno Le Maire essaye de tenir la baraque sur le fait de, on ne va pas ponctionner plus les acteurs économiques.
Ouais.
Ça, on sent qu'il a à cœur d'éviter qu'il y ait de nouvelles taxes. Ce qui nous inquiète un petit peu, c'est tout ce qu'on qualifie de transition énergétique ou transition écologique, où là, ce qu'on appelle les taxes vertes, bien souvent ne viennent pas en remplacement d'autres taxes, mais viennent de façon supplétive à des taxes déjà existantes. On voit avec le projet de défiscalisation de la TICP pour les transporteurs routiers, d'un seul coup, ça change le modèle économique de pan entier, de secteur d'activité du pays. C'est pas neutre. Donc tout cela, effectivement, on surveille ça comme le lait sur le feu. Et tant que, évidemment, le gouvernement n'aura pas fait les efforts de réduire la dépense de la sphère publique, ça sera très compliqué de remettre du charbon dans la machine économique de la France venant de l'État.
Donc,
c'est évident.
Votre inquiétude, elle vient donc de toutes ces taxes. Alors, on va avoir de la taxe carbone qui, pour l'instant, a été évacuée, mais donc de ces taxes qui pourraient naître ici ou là pour aller peut-être dans la bonne direction sur le plan écologique. Mais pour vous, ça vous inquiète? Ça pourrait avoir un impact pour les PME?
Bien sûr, parce qu'on est tous d'accord qu'il faut bien évidemment faire attention à notre environnement. On sent bien qu'il va falloir produire aujourd'hui et demain différemment qu'hier. Tout cela, eh bien, il faut l'accompagner parce que c'est des investissements. Lorsqu'on est agriculteur, qu'on veut passer au bio, eh bien, c'est 5 ans d'investissement avant qu'il y ait un retour positif. Pour une entreprise, c'est exactement pareil. Lorsqu'elle veut changer son manière de produire, de s'adresser à ses clients, ça coûte d'abord de l'argent. Or, pour financer cela et son environnement, s'il faut créer de nouvelles taxes, il faut que ça se fasse à iso-fiscalité. Comme la pression fiscale est déjà importante, si on en rajoute, on risque de déséquilibrer des pans entiers de notre économie. Et c'est ça qu'on regarde avec vraiment beaucoup d'attention.
Ce budget de 2020, donc il y a la suppression, la défiscalisation du fioul qui vous inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète d'autre dans ce budget 2020?
Si vous voulez, pour ce qui nous inquiète, c'est...
Pas qu'il vous inquiète ou pas.
Non, c'est... On sent, si vous voulez, que de toute façon, il y a un choix qui a été fait, on ne peut pas le critiquer, c'est un choix de paix sociale. Après la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a décidé de distribuer pas loin de 20 milliards d'euros à tous les Français, tant mieux pour ceux qui vont en bénéficier. Maintenant, on sort un petit peu de l'orthodoxie budgétaire. Et là, on est dans un schéma de facilité, avec des emprunts négatifs pour la dette de l'État, ce qui fait que mécaniquement, on arrive à tenir, à passer en dessous de la barre des 3% d'endettement de la France, au niveau budgétaire annuel. Mais pour autant, on ne résout pas nos problèmes de fond. Voilà. On a toujours ce déséquilibre majeur entre ce que l'on dépense et ce qu'on a besoin de taxer pour alimenter la dépense qui reste toujours plus importante pour notre pays. Et ça, c'est une difficulté de fond qu'on n'arrive pas à résorber. Et pourtant, nous sommes dans une période où nous aurions des outils pour, bien sûr, entamer une orthodoxie budgétaire.
Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu? Est-ce que vous avez été reçu par Emmanuel Macron? Tiens, parce que Laurent Berger a été reçu, Philippe Martinez de la CGT dit « Moi, je voudrais bien être reçu aussi, c'est la démocratie ». Est-ce que vous avez été reçu par Emmanuel Macron? Quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois?
Oh, alors ça fait un petit moment, ça fait une année que je ne l'ai pas vu. Voilà,
et donc, sollicité un entretien?
Oui, j'ai sollicité un entretien. Alors, j'ai vu le secrétaire général de l'Élysée. On se voit régulièrement avec le secrétaire général de l'Élysée. C'est bien normal. Par contre, effectivement, j'attends toujours un entretien avec le président de la République. Mais vous savez, ce qui m'importe, c'est pas tellement de voir ou pas le président de la République. Ce qui m'importe, c'est de savoir si les mesures qui sont prises, on parle de la loi de finances, seront favorables ou pas aux acteurs économiques de terrain. C'est ça, c'est la seule chose qui m'importe. Ouais. Maintenant, bien évidemment, il y a une place importante des partenaires sociaux dans notre pays qui doit être remise en selle, en responsabilité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien échanger avec le président de la République.
Oui, mais là, pour l'instant, j'ai envie de dire, vous êtes de plus en plus marginalisé, parce que vous regardez sur l'assurance chômage, comme vous n'êtes pas tombé d'accord, hop, ça y est, maintenant, c'est l'État qui a repris le manche. Et là, sur les retraites, c'est un peu le cas aussi.
Bien sûr, vous avez raison. Mais regardez, les ordonnances travail, c'est passé. L'assurance chômage, c'est passé avec un petit peu de friture sur la ligne. Les retraites, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on a besoin dans un pays de corps intermédiaires constitués pour faire accepter au plus grand nombre, les réformes dont le pays a besoin. Donc si, et c'est le projet que porte la CPME, si demain nous ne mettons pas, et je dis bien attention au terme, au qualificatif, en responsabilité, les partenaires sociaux au centre du jeu, on va vers de grandes difficultés.
Oui, mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, tout organisme que nous avons en gestion paritaire, où nous avons de l'argent à gérer, si on nous appliquait demain une règle d'or, interdiction de s'endetter, obligation de traiter la dette si elle existe, et on supprime la garantie de l'État. C'est-à-dire que demain, comme pour le cas, par exemple, des retraites complémentaires des salariés Agirc-Arrco, on n'a pas le droit d'emprunter, et bien là, comme par hasard, on est raccroché au principe de réalité, et là, il faut prendre les décisions qui s'imposent.
Oui, mais c'est fou que quand même des personnages comme vous, au sens large du terme, bien sûr, en responsabilité, que ce soit leader de la CFDT, leader de FO, vous, ou le patron du 2P, mais vous ayez besoin d'avoir des contraintes pour pouvoir vous mettre en responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Pas obligé par la loi que vous n'avez pas le droit de faire des déficits, vous pourriez aussi prendre vos responsabilités en disant on ne fait pas de déficit. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
On y est d'accord.
Vous avez besoin, comme des enfants, d'avoir un papa ou une maman qui vous tape dessus.
Mais vous avez raison, Edwige, et c'est pas très glorieux ce que vous dites.
Non.
Et vous avez entièrement raison. Donc on doit balayer devant notre porte. Et reconnaissons que les partenaires sociaux, depuis pas mal d'années, n'ont pas été vraiment très efficaces dans les négociations qu'ils ont pu poursuivre. D'ailleurs, on n'y arrive plus à négocier. Ce qu'il faut, c'est que tout simplement, on soit dans un cadre qui nous raccroche au principe de réalité, comme dans la vie de tous les jours, de tous les Français, de tous les entrepreneurs. Quand vous faites un exercice négatif, j'aime mieux vous dire que vous avez intérêt à redresser la barre, oui, parce que vous avez tout de suite des difficultés.
Parce qu'en plus, vous êtes touché à l'entreprise, donc
et bien sûr, avec
vous savez ce que c'est qu'un compte d'exploitation.
Au niveau collectif, il faut qu'on soit exactement dans la même position, rattaché au principe de réalité. Pas de bras, pas de chocolat. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous, eh bien, il faut en trouver, il faut se mettre d'accord. Et c'est là où, d'un seul coup, eh bien, on est créatif, on trouve des solutions, comme pour la Gicarco, qui permet tout simplement de tenir la promesse qu'on doit faire à ceux qui nous représentent.
Encore un mot sur la réforme des retraites, je vous cite, vous avez dit, à vouloir donner trop de temps au temps, la réforme des retraites risque un enterrement de première classe. Enfin, maintenant, il faut bien discuter, il faut bien négocier, ça engage tous les Français, c'est l'avenir de tous les Français.
C'est pour ça que le calendrier annoncé par Édouard Philippe me paraît très cohérent, et je pense que si, à l'été prochain, on arrive à un projet de loi, j'aime mieux vous dire que l'exercice aura été plutôt efficace. Parce qu'on est sur un champ miné, vous le savez, que ce soit du côté des régimes spéciaux comme du côté des indépendants et puis comme du côté de tous les Français, parce que lorsque les Français vont commencer à faire leurs calculs et avant et après, c'est là effectivement où les choses peuvent se cristalliser. Et on est pile poil dans cette période-là. Donc il faut expliquer les enjeux maximum de Français, et là la position des corps intermédiaires est très importante, et puis faire en sorte que...
C'est ce que vous faites, vous ?
Ah ben écoutez, c'est en tout cas c'est ce qu'on a fait sur les retraites. On a positionné ce qu'on peut qualifier de du corpus de la CPME, à savoir que nous on est pour d'abord garder la typologie de trois types d'actifs, les indépendants et professions libérales, les salariés et les fonctionnaires et assimilés, avec un niveau de retraite universelle plafonné à 40 000 euros, et au-delà, on garde les régimes spécifiques en appliquant exactement ce que je viens de vous dire, à savoir la responsabilité de ceux qui ont à gérer ces régimes complémentaires avec la règle d'or. J'aime mieux vous dire que si on faisait ça, la réforme serait acceptée par une majorité de Français. Par contre, un petit problème, c'est que si on fait ça, il faut trouver les sous pour boucher les trous.
Oui, c'est l'éternelle question.
Eh oui, l'éternelle question.
Deux questions. D'abord, une question plus générale. Je ne sais pas si vous avez vu que le solde d'ouverture d'usine, depuis le début de l'année, en fait, il est négatif maintenant. Donc, ouverture, fermeture d'usine. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à réindustrialiser la France ?
Si, mais ça veut dire qu'il y a des sujets de fond qu'il faut traiter. À travers ce que vous dites, qui est tout à fait vrai, il y a des problèmes d'ordre réglementaire qui se posent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Complexité administrative.
Exactement.
Qui vient en premier lieu.
Faire une extension d'usine, on y arrive, parce qu'on est sur un terrain déjà qui est viabilisé, qui est dédié à l'outil industriel. Mais lorsqu'il s'agit de créer un nouvel outil de production, une nouvelle usine, là, l'empilement des normes administratives et le chemin de Damas qu'il faut emprunter pour arriver à ouvrir cette usine est extrêmement complexe, est extrêmement long, chronophage et donc coûteux. Et là, c'est un vrai handicap.
Toute dernière question, est-ce que vous êtes sur le chantier Notre-Dame, Asselin, en l'occurrence votre entreprise, parce que vous avez rénové tous les plus beaux endroits du monde ?
Vous savez, pour l'instant, on n'est pas dans la phase consultation des entreprises. Ouais. Le jour où la phase de consultation des entreprises sera lancée, on verra si l'entreprise Asselin se positionne. Si c'est l'occasion, bien sûr, qu'on se positionnera.
Si, parce que ce n'est pas évident. Si, ça paraît évident.
Il faut connaître le cahier des charges, voyez-vous. Ouais. C'est-à-dire que j'espère, je le souhaite, il n'y aurait aucune raison que la charpente ne soit pas faite en bois. Elle a quand même tenu 900 ans.
D'accord, ça m'a envoyé un message envoyé. Justement, ça rejoint à une toute petite question, je me dépêche. Il y en a beaucoup qui disent, mettre en œuvre ce que voulait le souhait du président, oui, donc de reconstruire en 5 ans Notre-Dame pour que ça soit prêt, du coup, il y a un peu une mise en danger des ouvriers. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ?
Oui et non, c'est-à-dire que regardez, là, on prend beaucoup de retard avec l'histoire du plomb, qui est arrivée. Donc tout cela, c'est du temps, bien évidemment, que nous n'aurons plus pour tenir ce délai de 5 ans. Mais aujourd'hui, ça serait encore possible de dire, oui, on pourrait rouvrir au culte de la cathédrale dans moins de 5 ans, qu'elle soit entièrement restaurée, ça, je ne le pense pas.
Merci beaucoup. Tous ces dossiers sont à suivre. Bien sûr, vous reviendrez nous voir. François Asselin, le président de la CPME, était notre invité dans un instant. C'est Thierry Mallet, le patron de Transdev, qui est notre invité.
BFM Business, midi, l'heure H. Présenté par Edwige Chevrillon.
Mobilité, engagement responsable, on en parle dans un instant avec Thierry Mallet qui nous a rejoint. Thierry Mallet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, le patron de Transdev. Mais pour l'instant, c'est le rappel des titres, Thomas Asportal.
Et c'est toujours bien sûr le pétrole qui fait la une de l'actualité. Le pétrole qui reste sur ses niveaux de la veille après avoir bondi hier, vous l'avez vu, de près de 15%. Mais aujourd'hui, donc, le Brent et le WTI sont stables depuis l'ouverture des marchés. Des marchés manifestement dans l'expectative après les attaques contre les installations d'Aramco le week-end dernier. Donald Trump dit qu'il veut savoir savoir avec certitude qui est responsable avant de déclencher une éventuelle riposte. L'Iran a répondu dans la matinée bien qu'il n'y aura aucune discussion bilatérale avec les États-Unis. Le ministre saoudien de l'énergie, quant à lui, s'exprimera à 19h aujourd'hui, heure française. En Allemagne, le moral des investisseurs a nettement rebondi en septembre. Une bonne nouvelle, donc, pour une fois, côté allemand. Le moral des entrepreneurs et des investisseurs est deux fois meilleur qu'au mois d'août et même bien au-dessus que ce qu'attendaient les analystes. Les perspectives restent toutefois négatives, d'après ce que nous dit le baromètre Zoo. L'économie allemande reste sous la menace d'une entrée en récession au troisième trimestre. Et puis, c'est une très grosse journée pour Apple qui attaque la Commission européenne en justice. Le tribunal de l'Union européenne se penche aujourd'hui et demain sur la décision historique de Bruxelles, trois ans après que Margrethe Vestager a condamné Apple à rembourser 13 milliards d'arriérés d'impôts à l'Irlande. Apple a déclaré dans la matinée que cette décision défiait la réalité et le bon sens. BFM Business, bientôt midi 33. Je vous redonne le CAC à la mi-journée qui est stable, qui gagne à peine 0,09% à 5607 points. L'euro dollar est stable aussi. 1 euro s'échange pour 1,1013 $.
Merci Thomas. À suivre Thierry Mallet, le patron de Transdev.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, sans doute, il profite du fait que maintenant, il faut prendre, vous avez la voiture, il faut prendre des cars, il faut prendre le train, il ne faut plus prendre l'avion. C'est Thierry Mallet, le patron de Transdev. Rebonjour, merci d'être là, Thierry
Bonjour,
Mallet.
Oui.
Effectivement, c'est un véritable phénomène que vous observez, en l'occurrence, et notamment en Suède, où vous êtes très présent, c'est de voir que maintenant, surtout les jeunes, ils prennent les tramways, ils prennent vos cars. On va en dire un mot, évidemment, dans un instant. Juste une question, vous n'êtes pas candidat à la tête de la SNCF, vous prenez la tête de la SNCF. La succession Guillaume Pépi.
Alors,
il y a beaucoup de rumeurs qui circulent.
Alors la SNCF, c'est un très très beau poste, c'est un très très, je dirais, c'est un très beau défi que celui de la transformation de cette entreprise publique en un groupe plus compétitif. Moi j'avoue que je suis très très heureux chez Transdev avec une équipe qui me donne envie de travailler et puis on a également plein de beaux projets aujourd'hui à poursuivre.
Oui, donc pas candidat.
Non.
A priori.
Non.
Intéressant, lapsus révélateur. Jean-Pierre, un des noms cités, c'est Jean-Pierre Farnoux qui est au lit, ça serait un bon choix?
Alors, c'est un excellent professionnel, Je l'ai côtoyé, il m'a succédé à la présidence de l'UTP, il connaît très très bien le secteur, il connaît très très bien la SNCF, ce qui sera un atout clé effectivement dans la transformation de l'entreprise.
Voilà, comme ça c'est dit. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai que vous observez, alors notamment en Suède où je crois que ça a été extrêmement marqué, en tout cas c'est ce que vous me disiez, avec le phénomène de Greta Thunberg, le fait que maintenant les Suédois ne prennent plus l'avion, ou quasiment plus, mais est-ce que c'est un phénomène dont vous mesurez l'ampleur déjà aujourd'hui chez Transdev?
Alors, on le mesure au travers de deux activités différentes. Nous avons des bus qui vont à l'aéroport et on a vu baisser la fréquentation de 10%, c'est-à-dire que moins de gens se rendent à l'aéroport. Et par contre, on a des trains régionaux ou des trains nationaux, en particulier entre Stockholm et Malmö. Et on a, à l'inverse, observé effectivement une forte demande, une augmentation très très importante de la demande avec des trains qui sont pleins. D'ailleurs, on va mettre des trains supplémentaires sur cette ligne-là, puisque les gens préfèrent effectivement pour faire Stockholm-Malmö, prendre le train que plutôt prendre l'avion.
Oui. Et ça, c'est un phénomène que vous observez ailleurs quand même, ou pas?
Alors, pour l'instant, il est très très marqué en Suède. On ne le voit pas avec la même intensité sur d'autres territoires.
Oui, en même temps, on va voir que la loi mobilité qui a été adoptée est quelque chose qui va peut-être bousculer les choses. Cela dit, lorsqu'on regarde votre actualité à vous, je veux dire, vous avez Bogota, où vous mettez des énormes bus, vous avez des tas de contrats à l'international qui montrent qu'il y a une sorte d'évolution quand même par rapport à la voiture individuelle ou au vélo.
Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, les transports publics, les transports en commun sont une vraie solution, notamment pour la mobilité du quotidien. Vous évoquiez Bogota.
Vous, c'est 11 millions de passagers par jour.
Voilà, c'est ça, 11 millions de passagers par jour. Bogota, c'est tout à fait exceptionnel. C'est des bus en site propre qui transportent tous les jours 2,5 millions de personnes. C'est-à-dire l'équivalent de la ligne A et B du RER en bus à Bogota grâce à des sites propres, et c'est 1200 bus qui circulent tous les jours. C'est vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire, et c'est des bus qui ont été mis en place comme si on avait conçu un métro. Et donc vous pouvez traverser la ville de part en part, vous pouvez faire 20 km sans un feu rouge, parce qu'ils ont effectivement décaissé les passages des bus pour pas qu'ils croisent le trafic normal, et vous vous déplacez en bus 2 à 3 fois plus vite qu'en voiture.
Ouais. Est-ce que ça va être quand même la tendance? Vous pensez qu'on va vers ce mode de transport? Alors, je sais bien que vous êtes patron de Transdev, vous allez me dire oui, évidemment. Mais enfin, au-delà de ça, je pense que vous avez une analyse qui est peut-être, qui est certainement plus fine que votre propre business. Mais vous pensez que ça, c'est la solution?
Alors, je pense que la voiture individuel ne peut pas être que la seule solution. Et on voit bien la nécessité d'inventer des modèles différents. Je pense en particulier à la crise des gilets jaunes qui nous a fait découvrir un problème qui n'était pas forcément aussi visible, qui est l'enjeu aujourd'hui de la mobilité dans les grandes périphéries, notamment les périphéries des grandes métropoles, ainsi qu'en milieu rural. Où aujourd'hui, vous avez un phénomène en France avec une croissance qui est très très concentrée sur des métropoles. 85% de la croissance des emplois s'est passée dans les métropoles. Et le résultat, c'est effectivement des aires urbaines qui sont sorties complètement du périmètre de la métropole au sens administratif, qui font parfois jusqu'à 50 km, des gens qui habitent dans des espaces très peu denses, où vous avez très très peu de services. Les services de la métropole ne vont pas forcément dans ces zones-là, et la nécessité aujourd'hui d'organiser quelque chose qui soit différent de la voiture individuelle pour rentrer dans la métropole. Et dans le même temps, vous avez à peu près 60 départements en France qui ont perdu 300 000 emplois. Donc ça veut dire que dans le reste de la France, en dehors des métropoles, l'emploi, il est de plus en plus loin. Ça veut dire
combien de départements, vous dites ?
60 départements en France.
60 départements, donc ça veut dire une taux négatif.
Ce sont des chiffres de l'URSSAF. Ouais. Et ça montre effectivement qu'il y a une nécessité, enfin, cet enjeu à la fois de la croissance des métropoles et de la décroissance de l'emploi dans une partie du territoire français, fait qu'aujourd'hui, il faut faire de plus en plus de kilomètres pour aller au travail. Et si vous faites 30 kilomètres, c'est 200 euros par mois. Si vous faites, c'est le prix de l'essence. Si vous faites 50 kilomètres, c'est 300 euros par mois. Et c'est là qu'on retrouve cette problématique de pouvoir d'achat, parce que si vous gagnez 1000 euros ou 1100 euros par mois, 300 euros, c'est vraiment très lourd dans votre budget. D'où la nécessité de commencer à réfléchir, à la fois pour les périphéries des grandes villes, et la LOM va le permettre, parce qu'on va travailler à la bonne échelle, on va travailler à l'échelle...
Là, c'est la loi sur la mobilité, oui.
Voilà, la LOM, la loi d'organisation des mobilités va permettre de travailler à la bonne échelle, d'orientation des mobilités, va permettre de travailler à la bonne échelle, et de la même manière, il faut trouver des solutions aux zones peu denses qui sont une alternative à la voiture, ce qui permettra à des familles de ne pas avoir deux voitures, mais une seule voiture. Voilà, ce sont des solutions sur lesquelles nous travaillons aussi, et la LOM va le permettre.
Et en quoi elle va le permettre, justement, cette loi mobilité ?
Alors, la LOM va d'abord organiser le territoire en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de zones qui ne soient pas couvertes par une autorité organisatrice de mobilité. Ça va être soit la communauté de communes, soit la région.
Oui.
Donc, on va devoir organiser la mobilité. Alors, la mobilité ne va pas s'organiser de la même manière en zone dense et en zone...
C'est ce que j'allais dire. C'est un petit peu comme pour les téléphones. Hein. En l'occurrence, on vous dit que c'est en zone blanche, c'est comme ça rapporte moins d'argent. Du coup, il y a beaucoup plus de zones blanches. C'est la même chose pour vous.
Mais on peut trouver des solutions très pratiques. Je voudrais évoquer deux ou trois solutions qui permettent effectivement aux zones peu denses d'offrir des solutions de mobilité. La première, c'est celle qui existe d'ailleurs en région parisienne, avec un parking à Brie-sous-Forges, juste à côté du péage de Saint-Arnoult, qui est au milieu de rien. Pratiquement au milieu de rien, c'est pas tout à fait vrai.
Vraiment,
zone peu dense. Et aujourd'hui, il est plein tous les matins et on a pu, depuis ce parking, offrir un service de bus, de car express, toutes les 5 minutes le matin, qui va jusqu'à la gare de Massy-Palaiseaux. Ça permet donc à des gens qui habitent dans une zone peu dense de faire 10 minutes en voiture ou de se faire accompagner en voiture et d'avoir un service de qualité à un endroit où il n'y en avait pas. Et du coup, ça vous connecte directement au train. Et pour entrer dans les grandes métropoles, le train va quand même rester la meilleure solution parce que le train, ça vous permet effectivement, puisqu'il est en site propre, de rentrer facilement dans les métropoles. Et on voit bien qu'il y a une vraie place pour le multimodal. Une deuxième type de solution, c'est effectivement le transport à la demande qui permet... à partir d'une ligne fixe, de la déformer sur son trajet final, par exemple, pour aller trouver des zones peu denses. C'est ce que nous avons fait sur la desserte, par exemple, du port du Havre. Le port du Havre, c'est la taille de Paris. Et donc, les lignes de bus, en fonction des personnes qui sont à bord du bus ou des gens qui, grâce à leur application, ont réclamé...
La question qu'on peut se poser en vous écoutant, c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous laisse parler. Mais c'est, Thierry Mallet, c'est qu'en même temps, est-ce que c'est rentable pour vous ? Oui. À quelles conditions c'est rentable ?
Alors, la rentabilité, nous travaillons avec les régions et avec les collectivités locales pour trouver les meilleures solutions.
Oui, donc
c'est toujours subventionné. Le transport public est toujours subventionné en France. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les usagers des transports publics, les voyageurs, ne payent généralement que 25 à 30% du prix du billet. L'enjeu aujourd'hui, c'est de s'assurer que ces solutions qu'on avait de manière très efficace en centre-ville, on les trouve aussi pour un coût raisonnable pour la collectivité à l'extérieur de ces centres-villes, dans les zones périphériques.
On va rappeler, Transdev, c'est transport en commun, bus, car, tramway, transport à demande, 66%. Ferroviaire, on va dire un mot, régional, c'est 15%. Les parkings, c'est 10%. Et le B2B, c'est 9%, grosso modo, pour ceux
Transdev, c'est surtout 82 000 personnes dans le monde, et dont 60% de chauffeurs, qui transportent 11 millions de personnes dans 18 pays.
Oui, donc les côtés internationaux et de plus en plus, parce que vous renforcez, notamment grâce au tramway. Est-ce que vous êtes pour la gratuité des transports ? Pour vous, à la limite, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, est-ce que vous êtes pour la gratuité des transports ?
L'enjeu, si on veut avoir...
Comme un Dunkerque, justement, vous êtes très présent, c'est pour ça.
Alors, on est très présent à Dunkerque, et depuis d'ailleurs que les transports sont devenus gratuits, on a la fréquentation augmentée de 80%.
Oui.
Mais il n'y a pas que l'effet gratuité.
Oui, je recevais le maire de Dunkerque, c'est très impressionnant.
Il ne faut pas oublier que les gens prennent les transports publics, pas parce que c'est gratuit ou parce que c'est peu cher, parce que c'est pratique. Vous prenez le train ou vous prenez le bus parce qu'il y a une offre de qualité. En Allemagne, on avait repris des petites lignes en 2000 qui avaient à peu près 500 personnes par jour. En augmentant la qualité, en augmentant la fiabilité des trains, en étendant la période de fonctionnement, on travaille de 4 heures jusqu'à minuit, on a des trains toutes les demi-heures, on est passé à 23 000 personnes par jour. Donc la première priorité, c'est d'avoir des offres de qualité qui sont une alternative à la voiture, et après de mettre en place la tarification qui convient. La gratuité, elle n'est pas nécessairement nécessaire pour tout le monde. Il faut que les gens qui
bien sûr, je ne parle pas dans si vous êtes dans une petite ville, peut-être, et encore pourquoi pas. Mais à Dunkerque, comme vous dites, ça fait augmenter de 80%. À Paris, la question se pose.
Alors, l'enjeu, Dunkerque pouvait se le permettre, du fait de ses revenus, de se permettre cette extension, parce qu'elle a fait à la fois la gratuité et l'extension du réseau. À Paris, on voit bien aujourd'hui que ça bloque, et si on veut faire l'extension du réseau, aller encore plus loin en périphérie, il faudra effectivement des ressources importantes.
Dans le cadre de cette loi mobilité, est-ce que vous avez été déjà, enfin sollicité, je sais bien, mais être fortement sollicité pour mettre en concurrence les transports régionaux avec la SNCF?
Alors, c'est pas dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, mais dans la loi de nouveau pacte ferroviaire.
Oui.
Il y a aujourd'hui 4 régions en France qui ont manifesté, déjà, qui ont d'ailleurs publié les AMI.
L'Île-de-France.
Il y a effectivement... c'est la région Sud, c'est la région Grand Est, c'est les Hauts-de-France et c'est les Pays de la Loire qui sont toujours les plus avancés dans l'ouverture à la concurrence et qui ont déjà commencé à identifier des lignes qui pourraient effectivement être ouvertes à la concurrence à la fin de l'année prochaine.
Oui, et donc, vous avez été...
Nous, on y travaille, on n'est d'ailleurs pas le seul opérateur alternatif à y travailler. C'est un peu notre vocation, puisque en Allemagne, nous sommes effectivement l'alternative à la Deutsche Bahn. Nous sommes depuis les années 95, depuis l'ouverture à la concurrence, le numéro 2, et nous avons l'habitude de gagner des réseaux. Et nous avons d'ailleurs gagné au début de cette année, à la fin de l'année dernière, le réseau d'Hanovre, qui est un gros RER autour de la ville d'Hanovre, et nous avons également renouvelé le réseau de Brême, qui sont des réseaux de RER. Et en Allemagne, on fait à la fois, j'allais dire, des RER métropolitains, dont on a vraiment besoin en France autour des grandes métropoles, et également des petites lignes.
Et donc, est-ce que ça veut dire que donc vous êtes candidat, la probabilité de l'emporter, elle est forte? Est-ce qu'il y a une vraie appétence? Est-ce qu'il y a une volonté de mettre en concurrence la SNCF? Christian Estrosi l'a dit clairement, ça c'est évident. D'autres aussi, enfin peut-être un peu moins fortement. Est-ce qu'il y a une vraie envie?
Moi, je pense qu'il y a une vraie envie, et puis je pense qu'il y a un vrai besoin. Aujourd'hui, le prix du train en Allemagne est inférieur de 30% au prix du train en France. Il y a une meilleure qualité de service. Donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui de mettre en concurrence la SNCF. Pour que la SNCF progresse, en Allemagne, la Deutsche Bahn a progressé du fait de l'ouverture de la concurrence. Elle est toujours restée largement majoritaire, la 60% du marché. Et donc, je pense qu'il y a une véritable volonté politique et on va l'accompagner pour pouvoir effectivement ouvrir à la concurrence les lignes en France et faire du meilleur service et de la meilleure qualité, et redonner effectivement, je dirais en particulier, de redonner ces lettres de noblesse au train du quotidien.
Il y a une question, alors qu'on connaît mieux, on ne va pas être trop technique, parce que ça peut être un peu compliqué pour nos auditeurs et téléspectateurs, mais c'est une très forme en fait, qui peut bousculer la mise en concurrence du TGV sur la discussion, enfin, sur le niveau de prix des péages ferroviaires. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'effectivement c'est un enjeu important?
L'enjeu des péages, c'est effectivement pour adapter les lignes et s'assurer qu'on maintient un certain nombre de dessertes. C'est le jeu qui est derrière. Pour notre part, chez Transdev, nous n'irons pas sur les TGV. On va se concentrer sur les trains régionaux, la mobilité du quotidien et peut-être les TET également.
Les TET étant...
Les trains d'équilibre du territoire qui sont les liaisons entre Nantes et Bordeaux et Nantes et Lyon.
Ouais. Donc pour vous, ça n'a pas. Mais est-ce que ça peut avoir un impact? La concurrence, vous la voyez arriver d'où en l'occurrence? Ça soit toi, tant sur le TGV aussi que sur votre propre marché.
En matière de réseau, il y a une grande priorité, c'est l'indépendance de SNCF Réseau, parce que SNCF Réseau va devoir faire rouler les trains régionaux, mais aussi les trains nationaux. Et donc, il est très très important que SNCF Réseau soit indépendant du reste de la structure SNCF. Et pour nous, c'est un élément très très important de la mise en concurrence effectivement du marché en France.
Oui, et donc, j'ai envie de dire, c'est quoi le message là que vous portez ?
Il faut qu'on s'assure que dans la nouvelle gouvernance qui va se mettre en place à la SNCF, on a bien une véritable indépendance de SNCF Réseau par rapport à SNCF Mobilité.
Est-ce que vous estimez, c'était pas ce que je voulais vous l'entendre dire, hein, Thierry Malin, est-ce qu'il y a une vraie, est-ce que là il y a une nécessité très importante de travaux ferroviaires sur le réseau français en l'occurrence ?
Il est tout à fait clair qu'on est très en retard par rapport à l'Allemagne et qu'on a besoin effectivement.
Ça marche déjà pas très bien hein, en Allemagne.
Ça marche nettement mieux qu'en France aujourd'hui.
Oui.
Ça marche nettement mieux qu'en France et on voit bien les difficultés.
C'est sur les petites lignes, c'est sur quel genre de lignes ?
Ça marche très bien, effectivement.
Non, mais les travaux qu'il faut effectuer sur le réseau français.
Je pense qu'il y a un gros enjeu sur la mobilité, j'allais dire, du quotidien, c'est les petites lignes. Et c'est également sur les lignes qui seront demain les RER régionaux qu'il faut renforcer pour assurer leur fiabilité et permettre de passer demain encore plus de trains qu'on en passe aujourd'hui.
Oui. Encore un mot sur la France, sur l'Île-de-France. Sur le Charles de Gaulle Express, quelle est votre position, vous ?
Bon, on avait fait une très belle offre, on n'a pas été retenu, on le regrette, et puis on est en train de travailler sur d'autres projets.
D'accord. Est-ce que vous comprenez les gens du RERB qui considèrent que l'existant est déjà là, il suffit peut-être d'aménager, on n'a pas besoin de faire autant de travaux sur cette ligne qui est tellement fréquentée ?
Je pense qu'il y a un véritable intérêt à offrir une liaison rapide vers Charles de Gaulle, en particulier pour les hommes d'affaires. Mais ça ne doit pas se faire aux dépens de la mobilité du quotidien.
Bah oui, mais oui, on est d'accord.
Il faut trouver une solution qui permette.
Mais pour l'instant, on l'a pas trouvé. Enfin, je sais pas si vous l'avez. Vous avez trouvé une solution, non ?
Je vais pas regarder la partie travaux, mais je pense que il faut effectivement privilégier la mobilité du quotidien en numéro un. Mais ça n'empêche pas de créer des lignes directes et rapides. Et c'est effectivement un élément d'attractivité du territoire. Le fait qu'on puisse se rendre facilement à l'aéroport doit être possible. Alors aujourd'hui, prendre effectivement le RERB avec une grosse valise si vous partez, vous déplacez, c'est pas pratique. Donc cette alternative est une bonne alternative. Il faut effectivement qu'on arrive à réaliser les travaux dans des conditions qui ne perturbent pas le quotidien des Parisiens de la zone nord.
On voit bien que ça perturbe, tous les travaux perturbent d'une manière impressionnante, notamment la vie des Parisiens, et puis en plus la vie des banlieusards qui, eux, on doit prendre ces RER où il y a beaucoup de travaux qui sont nécessaires. On voit qu'il y a une espèce de ras-le-bol des travaux ferroviaires et routiers.
C'est le résultat, d'une période où on n'a plus fait de travaux, et je pense qu'on a besoin d'une mise à niveau. Alors, c'est une période pas facile, mais cette mise à niveau, elle est nécessaire si on veut réatteindre un niveau de qualité de service. Sinon, ça va continuer de se dégrader, et à la fin, on n'aura pas la bonne qualité de service que mérite aujourd'hui ni la région parisienne, ni la France.
Au niveau de l'international, en fait, votre développement, il est essentiellement sur tout ce qui est tramway et bus ?
Alors, on est en développement tout azimut. On a effectivement renouvelé le tramway de Dublin. On a effectivement gagné un tramway à Parramatta, à Sydney, mais on a également renouvelé le contrat des ferries de Sydney, de la baie de Sydney. On vient d'acquérir trois sociétés qui sont plutôt des sociétés de bus en République tchèque, au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Donc on voit bien qu'on est en train de se développer sur tous les modes. Et moi je pense que le tramway est un mode où le train sont des modes bien pour les zones denses. Le car ou le bus qui deviennent de plus en plus propres. On a aujourd'hui une flotte de plus de 700 véhicules électriques. On vient de lancer la première ligne de bus à hydrogène à Lens, effectivement dans le bassin minier. Donc cette mobilité va devenir de plus en plus propre.
Oui, mais en même temps, c'est un peu contradictoire parce que justement, je vous guettais. Vous êtes sorti des bus en France, enfin des cars Macron, comme on les appelle.
On est sorti des bus longue distance, mais absolument pas des bus régionaux. Oui. Des bus, ça reste la majeure partie de notre activité.
Oui, mais sur les cars longue distance, vous en êtes sorti.
Les cars longue distance, c'est un modèle un peu particulier. Ouais. Non, c'est un modèle qui était plutôt B2C, où on s'adressait directement aux clients. C'est un modèle dans lequel il faut investir des sommes très importantes parce que l'enjeu, c'est d'être effectivement le numéro un. Pour Transdev, l'an dernier, ça représentait une perte quasiment de 15 millions pour 15% de part de marché. La SNCF avec Ouibus, qui avait à peu près 40 ou 45% de part de marché, les chiffres qu'ils ont publiés, c'était 50 millions de pertes. Donc on a décidé effectivement de ne pas continuer d'investir massivement, de se retirer de cette activité-là pour se concentrer sur la mobilité du quotidien, travailler avec les régions pour développer des solutions, toujours en utilisant le bus ou le car comme solution.
Combien dans votre flotte, quelle est la part de l'électrique ?
Alors l'électrique aujourd'hui ça reste faible. Sur les 30 000 véhicules, c'est à peu près 1 000 000 de véhicules. Mais ça accélère très très rapidement.
Ça veut dire quoi très rapidement ? Fin de l'année vous serez quoi, 1 002 ?
Non, on va être d'ici 2 ans, 3 ans à plus de 2 000 bus. Et ça continue d'accélérer au taux de renouvellement des bus. C'est-à-dire que la vie des bus c'est 10 ans, donc ça se renouvelle. Mais je vois vraiment une accélération. Ça avait démarré très très fort aux Pays-Bas. Maintenant c'est la France, la Suède. l'Australie, on voit effectivement tous les pays qui accélèrent pour passer à l'électrique. Alors l'électrique n'est pas la seule solution,
oui,
il y a aussi le gaz naturel.
Le gaz naturel
en particulier, si on prend du biogaz, n'émet pas de CO2 et les émissions de particules sont beaucoup plus maîtrisées. Il y a l'hydrogène pour moi qui est une vraie solution d'avenir.
Voilà,
c'est pour ça qu'on a effectivement lancé cette première ligne à hydrogène qui est une solution totalement française. Les bus sont fabriqués par l'entreprise Safra à Albi, la pile à combustible c'est Michelin. Et
justement, la question se pose aussi sur les... c'est en Chine, il y a tout un réseau de stations essence, enfin pour l'hydrogène. En France, on est assez en retard, on n'y croit pas trop, et pourtant, ça se développe, il y a un vrai avenir.
Ah, moi, je crois que l'hydrogène. D'ailleurs, l'enjeu, il n'est pas tant sur la technologie du bus et le bus lui-même, il va être effectivement sur la production de l'hydrogène renouvelable, pas à partir de méthane, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène est produit à partir de méthane, de l'hydrogène renouvelable qui est produit à partir d'hydrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable, et la création d'un réseau de distribution à un prix attractif.
Oui. Est-ce que vous pensez que ça peut aller aussi sur la voiture hydrogène, vous y croyez?
Alors, c'est très clair que c'est une très très bonne solution pour le car, le bus, les poids lourds. La voiture individuelle, ça va dépendre de l'autonomie qu'on va chercher.
Ouais. Juste une dernière question, il nous reste une minute sur la difficulté du recrutement. Est-ce que vous êtes concerné? Parce qu'on voit bien beaucoup de chefs d'entreprise ici même et encore tout à l'heure ce matin disent qu'on a un vrai problème de recrutement. Est-ce que c'est le cas pour vous?
Alors, on commence
dans une entreprise où vous êtes vous n'êtes pas un géant du CAC 40, mais enfin vous êtes en même temps une très grosse entreprise internationale.
Alors on commence à avoir des difficultés, notamment sur l'interurbain, où on a effectivement pas forcément des emplois qui sont des emplois à temps plein. Je pense en particulier les transports scolaires où les gens travaillent quelques heures le matin et le soir et ça devient de plus en plus difficile de recruter. Les pays où c'est le plus compliqué aujourd'hui, c'est l'Allemagne et les États-Unis, où on a un taux de chômage de moins de 3% et trouver des conducteurs est devenu un véritable défi.
Fin d'année, ça va se passer comment? Premier semestre a été un petit peu so-so, comme on dit, un peu mitigé. Est-ce que vous pensez pouvoir présenter un bilan de fin d'année qui soit plus positif?
Alors, on n'a pas présenté de chiffres à mi-année, mais l'année se déroule bien, conformément à ce qu'on avait attendu, avec plein de belles victoires, et aussi l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Depuis le 1er janvier, Veolia est sorti, et le groupe Reitman, un groupe familial allemand, est rentré au capital. Ils détiennent aujourd'hui 34%.
Absolument, avec la Caisse des dépôts, qui reste actionnaire largement majoritaire, avec la 2/3, mais est-ce que c'est appelé à évoluer?
Bon, pour l'instant, c'est une bonne solution.
Oui, c'était une solution trouvée, qui a été arrachée, une solution difficile à trouver. Mais en même temps, est-ce que s'ils sont rentrés, c'est peut-être pas pour rester en sleeping partners?
En fait, aujourd'hui, ils sont déjà très, très actifs. On les a sur nos réseaux, ils nous aident sur le plan commercial, notamment en Allemagne, ils nous accompagnent à l'international, on les accompagne à l'international. Aujourd'hui, il y a une très, très forte interaction avec le groupe Reitman.
Oui, mais juste au niveau du capital. Donc, à ce moment-là, ça fait...
Au niveau opérationnel aussi.
Non, ça, j'ai bien compris. Mais vous aussi, vous avez bien compris ma question. C'est, est-ce qu'un jour, la Caisse des dépôts est amenée à baisser sa participation? Est-ce que vous le souhaitez ou pas? Parce que dans le sens où il y a une coopération...
Aujourd'hui, la situation est tout à fait satisfaisante. Il a parlé à mes actionnaires, aussi bien la Caisse.
On connaît. Merci beaucoup Thierry Mallet d'avoir été avec nous. Donc le président de Transdev, on se retrouve demain à 8h15, évidemment 12h-13h dans l'heure H. Bonne journée.